Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 22 mai 2024. Le premier ministre du Tchad, Succès Mastra, a annoncé avoir présenté aujourd'hui sa démission après sa défaite à la présidentielle du 6 mai, remportée par le général Mahamat Idriss Déby Itno. En Guinée, le procureur réclame la perpétuité contre l'ex-président Moussa Dadis Camara dans le procès du massacre de 2009. Au Sénégal, après avoir attaqué le premier ministre Ousmane Sonko sur l'homosexualité, l'activiste Ba Diakaté et le prêcheur Cheikh Ahmed Tidiane Ndao ont été placés en garde à vue à Dakar. Joe Biden reçoit demain jeudi le président kényan William Ruto, un allié clé en Afrique.
Nous avons choisi le Kenya pour plusieurs raisons. La première est que le partenariat entre le Kenya et les États-Unis est passé d'un niveau régional à un niveau mondial. Nous avons été très satisfaits de la manière dont les Kenyans ont joué un rôle de premier plan au-delà de leur région.
Les enjeux de cette visite d'État de William Ruto à Washington dans la partie magazine. Israël fustige l'annonce de la reconnaissance de l'État de Palestine par des pays européens. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Tchad, le premier ministre Succès Mastra présente sa démission un peu plus de deux semaines après sa défaite à la présidentielle du 6 mai remportée par le général Mahamat Idriss Déby Itno. Alexandre Nolognon.
Je viens de présenter ma démission et celle du gouvernement de transition devenu sans objet avec la fin de l'élection présidentielle et conformément à la Constitution, écrit Succès Mastra sur sa page Facebook. Le Premier ministre, qui avait recueilli près de 19% selon les chiffres validés par le Conseil constitutionnel, avait contesté la victoire de Déby Itno. Il avait introduit un recours en annulation du scrutin rejeté par le Conseil constitutionnel le 16 mai. Mastra avait joué l'apaisement en admettant qu'il n'y avait plus aucun recours juridique au plan national et appelé ses partisans à poursuivre pacifiquement le combat politique. L'économiste était un ancien farouche opposant au Déby père, puis fils, avant de rallier la junte et d'être nommé Premier ministre par Mahamat Déby 4 mois avant la présidentielle. Il avait été accusé par le reste de l'opposition et une frange de la société civile d'avoir été candidat à l'élection pour donner un vernis démocratique à un scrutin joué d'avance. Mahamat Idriss Déby Itno a été proclamé officiellement élu à la présidentielle avec 61% des voix. Il doit prêter serment jeudi dans une cérémonie d'investiture à N'Djamena.
Le gouvernement guinéen, dominé par les militaires, a interdit 4 radios et 1 télévision privée très suivie dans le pays, indique un communiqué du ministère de l'Information publié ce mercredi. Les autorités ont retiré les agréments d'exploitation des radios FIM FM, Radio Espace FM, Suite FM, Joma FM et de la télévision Joma TV, qu'on a créé invoque un non-respect du contenu des cahiers de charges. Sans plus de précision, cette interdiction survient dans un contexte de sévères restrictions imposées aux médias par la junte au pouvoir depuis 2021. Toujours en Guinée, dernière ligne droite dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, le procureur au procès historique du massacre en Guinée a requis aujourd'hui la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité de l'ex-dirigeant militaire Moussa Dadis Camara et de plusieurs autres responsables de l'époque. Nani Talani.
Le magistrat Al-Gassimou Diallo a demandé devant le tribunal que la peine soit assortie d'une période de sûreté de 30 ans contre les 7 accusés, dont l'un est jugé par défaut et un autre est en fuite. Il a réclamé que les faits soient requalifiés en crimes contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration et viol. Le procureur a requis des peines de 15 ans de réclusion contre 3 autres accusés et de 14 ans contre 2 accusés. Il a refusé les circonstances atténuantes. Le procureur a reproché à Moussa Dadis Camara de n'avoir rien fait pour empêcher les agissements des hommes placés sous sa responsabilité. Il n'a rien fait pour que ce meeting ne soit pas réprimé. Au contraire, il l'a planifié, a déclaré peu auparavant un autre représentant du ministère public, Eladj Sidiki Camara. Au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs le 28 septembre 2009 et les jours suivants, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. au moins 109 femmes ont été violées.
Au Sénégal, un activiste et un prêcheur ont été placés en garde à vue à Dakar. Il leur est reproché d'avoir attaqué le Premier ministre Ousmane Sonko par rapport à ses récents propos sur l'homosexualité qu'il juge trop conciliant, selon des sources proches de l'enquête. Mamadou Moufa.
L'activiste Badia Kate, interpellé lundi par la division des investigations criminelles, s'est livré dans une vidéo à des attaques contre la personne d'Ousmane Sonko après une déclaration de ce dernier sur le thème de l'homosexualité la semaine dernière. Le prêcheur Cheikh Ahmed Tidiane Dao, placé en garde à vue mardi par les mêmes services, a reproché dans une autre vidéo au Premier ministre ce qu'il dénonce comme de la complaisance vis-à-vis de l'homosexualité. Les deux hommes font l'objet d'investigations pour diffusion de fausses nouvelles et offense à l'encontre du chef du gouvernement, d'après la source proche de l'enquête. Le débat sur l'homosexualité a ressurgi au Sénégal après les propos prononcés jeudi par le chef du parti PASTEF à l'occasion de la visite de l'opposant de gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon. M. Sonko a critiqué les tentatives des pays occidentaux d'imposer leur mode de vie aux pays africains et de faire pression pour la légalisation de l'homosexualité. Il a parlé de casus belli. Des cercles proches des religieux, des opposants et des militants lui ont reproché d'avoir défendu la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité et d'avoir offert à l'homme politique français une tribune pour plaider la cause des minorités sexuelles.
En RDC, des combats faisaient rage ce mercredi sur plusieurs fronts du Nord Kivu, dans l'est du pays, où l'armée dit avoir lancé des offensives pour tenter de reconquérir des zones occupées par les rebelles du M23. Les forces armées de RDC, appuyées notamment par des groupes armés dits patriotes, les Wazalendo en Swahili, ont lancé les offensives tôt ce matin, du mercredi 22 mai donc, contre les positions du M23 RDF, a annoncé sur X le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole de l'armée congolaise dans la province, en affirmant que des localités avaient été reprises. Des sources contactées par téléphone depuis Goma ont confirmé des combats dans les territoires de Masisi et Rutshuru, au nord-ouest et nord de la capitale provinciale, sans faire état de percées significatives à ce stade.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les chars israéliens ont avancé aujourd'hui jusqu'à la limite d'un quartier surpeuplé au cœur de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, au cours de l'une des nuits de bombardement les plus intenses depuis qu'Israël a lancé son offensive terrestre sur la ville ce mois-ci. L'assaut israélien sur Rafah a poussé des centaines de milliers de Palestiniens à fuir la zone après y avoir trouvé refuge. L'offensive a également coupé les principales voies d'accès pour l'aide humanitaire, faisant craindre à la communauté internationale des pertes en vies humaines massives. Cela dit, de nombreux pays arabes ont salué aujourd'hui la décision de la Norvège, l'Espagne et l'Irlande de reconnaître l'État de Palestine en pleine guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Mais Israël a dénoncé la décision des trois pays européens. Le point avec Rosine Monizero.
Alors qu'Israël a vigoureusement contesté la démarche, Riyad a salué une décision positive qui souligne le consensus international sur le droit inhérent au peuple palestinien à l'autodétermination et a appelé d'autres pays à faire de même. L'Égypte, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, aux côtés des États-Unis et du Qatar, a considéré l'initiative des trois pays européens comme une étape appréciée, soutenant les efforts internationaux visant à ouvrir un horizon politique. C'est une étape importante en faveur de la solution à deux États, a réagi de son côté le Qatar, un autre pays du Golfe. Doha a dit espérer aussi voir d'autres pays prendre des initiatives similaires. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie et l'Égypte plaident depuis des mois en faveur d'une solution à deux États, palestiniens et israéliens, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, la seule, selon eux, susceptible de désamorcer les tensions au Moyen-Orient. La plupart des gouvernements occidentaux, notamment les États-Unis, se disent prêts à le faire, mais pas avant qu'un accord ne soit négocié entre Israéliens et Palestiniens sur les frontières et le statut de Jérusalem.
Une foule immense s'est rassemblée aujourd'hui dans le centre de Téhéran pour rendre un dernier hommage au président iranien Ibrahim Raisi, célébré comme un martyr après son décès dans le crash d'un hélicoptère. Les funérailles se termineront demain jeudi avec l'enterrement du président défunt à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, sa ville natale. Et puis, Royaume-Uni, des élections législatives se tiendront le 4 juillet. Le premier ministre britannique Rishi Sunak, qui l'a annoncé ce mercredi, s'est exprimé en fin d'après-midi après un conseil des ministres. L'opposition travailliste est largement favorite pour ces élections. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Le Mali a signé un accord avec la société chinoise Ganfeng pour exploiter la mine de lithium de Goulamina et, conformément à un nouveau code minier, augmenter la part de Bamako dans le projet qui passera de 20% à 35%, a indiqué le ministère malien de l'économie. L'accord pourrait rapporter au Mali entre 110 et 115 milliards de francs CFA par an. La majeure française de l'énergie, Total Energy, a conclu son premier accord d'approvisionnement avec la raffinerie de Dangote au Nigeria, a déclaré sa direction générale. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, tente d'assurer l'approvisionnement en brut de sa raffinerie de 650 000 barils par jour et réduire la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant et d'autres produits raffinés. La prochaine phase de la raffinerie débutera au début de l'année prochaine. Pour terminer, la société britannique Vivo Energy veut investir un montant initial de 151 millions de dollars dans ses activités en Afrique du Sud à la suite de sa fusion avec la compagnie pétrolière sud-africaine Engen, a déclaré ce mercredi le ministère sud-africain du commerce. L'investissement est destiné à prévenir les pertes d'emplois et à poursuivre les contrats d'approvisionnement avec les raffineries locales que les régulateurs nationaux ont demandé lorsque la fusion a été envisagée.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La finale de la Ligue Europa se joue ce soir.
Oui, lancé dans une saison historique, invaincu après 51 rencontres, le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, fait figure de favori face à l'Atalanta Bergame à Dublin, en Irlande. Les Allemands, amenés par leur entraîneur espagnol Xabi Alonso et leurs Africains, le Burkinabé Edmond Tapsoba, l'Ivoirien Odilon Kosunou, les Nigériens Victor Boniface et Nathan Tella et le Marocain Amin Adli, veulent réaliser le doublé en attendant la finale de la Coupe d'Allemagne. Il faut s'attendre à un match difficile selon notre consultant sportif Amdensi.
C'est une finale qui ne sera pas facile parce que l'Atalanta Bergame, c'est vrai que jouera sa première finale européenne de l'histoire, mais c'est une équipe redoutable. Les Marseillais ne me démentiront pas, mais Leverkusen va jouer sa deuxième finale parce qu'ils avaient déjà joué une finale en Coupe UEFA en 1998 et une finale de la Ligue des Champions, c'était en 2002.
Merci Amdensi.
Le fonds américain Oaktree prend le contrôle de l'Inter de Milan.
Le fonds américain Oaktree a annoncé avoir pris le contrôle de l'Inter Milan qui vient d'être sacré champion d'Italie de football parce que le propriétaire chinois Suning ne lui a pas remboursé une dette de 395 millions d'euros dans les temps. Samedi, le président de l'Inter, Steven Zhang, a reproché au fonds américain de compromettre la stabilité financière du club et avait assuré que Suning avait tout mis en œuvre pour trouver une solution à l'amiable. Oaktree avait consenti en 2021 au conglomérat chinois un prêt de 275 millions d'euros pour faire face au manque de recettes de billetterie pendant la période du Covid, durant laquelle les matchs du championnat d'Italie se disputaient sans public. Avec les intérêts de 12% par an, Suning doit 395 millions d'euros à Oaktree, un fonds d'investissement californien.
Ici en NBA, les Celtics s'imposent in extremis face aux Pacers.
Indiana est passé tout près de l'exploit lors du premier match de la finale de la conférence Est dans les playoffs, mais a finalement subi une courte défaite 133-128 après prolongation sur le parquet des Celtics de Boston. Jaylen Brown a sauvé les siens, marquant un tir à 3 points à 6 secondes de la fin du match pour égaliser à 117 partout et arracher la prolongation. Son coéquipier Jason Tatum a ensuite pris les choses en main, finissant la rencontre avec 36 points, dont 10 en prolongation et 12 rebonds. Le Camerounais Pascal Siakam des Pacers a fini avec 24 points, 7 passes décisives et 12 rebonds. Le match numéro 2 de cette finale de conférence, disputée au meilleur des 7 matchs, aura lieu demain soir à Boston.
Page de sport VO Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, ici VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, le Front National pour la Défense de la Constitution, un collectif de la société civile, dissous par les autorités, menace de reprendre les manifestations si les autorités de la transition ne s'engage pas à rendre le pouvoir aux civils d'ici la fin de l'année. Il dit s'opposer à toute idée de glissement de la transition par tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques. Yakuba Ouedraogo, adjoint à Conakry, Abdoulaye Oumousso, porte-parole du FNDC.
Le chronogramme signé entre la CDAO et la junte au pouvoir était prévu que la transition finisse en décembre 2024. Et jusque-là, ce qui est convenu dans le chronogramme n'a pas encore été réalisé. Vous avez remarqué que le Premier ministre, à peine sorti il y a quelques jours, il annonçait que décembre ne serait pas tenable. Et il mettait même en doute même que le référendum constitutionnel ne puisse être organisé. Donc tout porte à croire que la junte s'est obstinée. Elle a refusé de respecter l'engagement qu'elle a prévu avec la CDAO. Et elle veut aller dès ce pas vers un glissement de calendrier, comme ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe au Burkina pour le moment.
Quels sont les signes qui vous permettent de faire de telles affirmations?
Le référendum constitutionnel devrait se tenir en décembre 2023. Ça n'a pas eu lieu. Et les élections législatives et communales et communautaires devraient se tenir en février 2024. Ça n'a pas eu lieu. Et jusqu'au moment où nous parlions, nous n'avons ni constitution, ni fichier électoral pour aller à une élection. Et si le chronogramme n'est pas mis en œuvre, comment nous pourrons aller vers une élection alors que en ce mois de juin qui doit venir, là, normalement, c'était les élections législatives qui devraient être organisées pour que nous espérons avoir des élections vers décembre 2024. Malheureusement, rien n'a été fait et aucun obstacle n'a été opposé à la junte pour ne pas que le chronogramme ne soit organisé. Avant, le prétexte était que nous organisons des manifestations. Vous avez vu qu'il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui ont été tuées. Aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans, il n'y a pas eu presque de manifestations. En tout cas, liées au retour à l'ordre constitutionnel, les manifestations qui arrivent, c'est des manifestations sociales. Donc, tout porte à croire que la volonté de la junte a été toujours de ne pas respecter ses engagements pris le 5 septembre après le coup d'État.
Qu'est-ce que vous prévoyez pour amener justement le pouvoir de Conakry à organiser ces élections-là d'ici au plus tard la fin de 2024?
Nous avons déjà entamé des consultations. Nous sommes en train de créer une coalition encore plus large. Et cette fois-ci, nous allons même vers les médias parce que vous savez que les médias sont muselés. Les fréquences de certains médias sont brouillées, certains sites Internet qui sont coupés et autres. Nous voulons vraiment réunir autour de l'essentiel, notamment les centrales syndicales, les partis politiques, mais aussi la société civile, pour qu'il y ait une coalition large, pour que nous discutions de la sortie de la transition. Nous tendons vers un rejet total de la junte, parce que si ça continue comme ça, nous n'allons plus reconnaître la junte. Et nous allons exiger à ce qu'il y ait un gouvernement civil pour organiser les élections dans les 6 mois. La junte a imposé 2 ans de transition et nous sommes maintenant à plus de 3 ans. Rien n'a été fait pour le retour à l'ordre constitutionnel.
Vous parliez au nom du Front National pour la Défense de la Constitution, organisation dissoute par les autorités. Est-ce que vous ne craignez pas d'être dans l'illégalité?
La décision était illégale, d'autant plus que le FNDC n'est pas une entité qui a un agrément, c'est un mouvement social. Et un mouvement social n'a pas besoin d'agrément. Donc ce qui n'existe pas ne pourrait être dissous.
Abdoulaye Oumousso, porte-parole du Front National pour la Défense de la Constitution en Guinée.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Au Burkina Faso, le gouvernement a sommé les opérateurs de téléphonie d'appliquer de nouvelles mesures, notamment en ce qui concerne l'acquisition des cartes SIM pour des besoins de sécurité nationale. Pour les opérateurs et leurs abonnés, c'est une sorte de course contre la montre pour identifier le maximum de personnes, ce qui soulève des interrogations et des critiques. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
L'ANOTEL, l'Association nationale des opérateurs de télécommunications, dans un communiqué conjoint des trois opérateurs de téléphonie, invite les populations à faire identifier leur carte SIM. La décision avait été prise par le gouvernement en décembre 2023, fixant les modalités d'identification des abonnés aux services de communication électronique et des clients des cybercafés. Elle stipule, par exemple, que pour l'achat d'une carte SIM par les nationaux, seule la carte nationale d'identité burkinabé reste le seul et unique document autorisé. Pour les étrangers, le passeport et la carte consulaire. Aussi, dans la disposition, une personne physique ne peut détenir plus de deux cartes SIM par opérateur. Question sécuritaire oblige. Des abonnés saluant la mesure soulignent néanmoins les contraintes liées à l'application de cette mesure.
Et moi-même, à mon côté, j'ai des difficultés. Parce que là où on vit là-bas, on a des numéros Orange Money. Quand on veut envoyer l'argent à la famille, on profite avec ça pour envoyer à la famille. Mais moi, j'ai demandé à ma fille de me prendre le numéro à son nom. Parce que moi, je suis à l'extérieur. Voilà, maintenant quand j'ai compris qu'on doit identifier les numéros, c'est pourquoi je suis venu pour me faire identifier.
Je comprends bien. C'est pour identifier, bon, c'est juste au contexte du pays là. Bon, je pense que c'est dû à tout ça, qu'ils existent à toute personne d'identifier. C'est un moment. Franchement, je suis en train de me plaindre auprès d'eux comme ça. Je suis arrivé, bon, on m'a indiqué dans un autre endroit, je suis allé là-bas, on m'a donné un numéro. J'ai pris les tickets là-bas, je vois que je suis assis pendant une heure du temps comme ça. Je vois que, bon, ça me fait perdre du temps.
Au ministère de la Transition digitale, on encourage ceux qui ne sont pas encore identifiés à le faire, sinon ils subiront des désagréments. Le directeur général des communications électroniques, Galiam Sidi Mohamed Ouedraogo, s'exprimait à la télévision nationale.
Les abonnés non identifiés ne pourront pas bénéficier du service de communication électronique, c'est-à-dire la voie Internet, mais aussi tous les services connexes, comme les services de paiement mobile, les services de mobile banking. Donc c'est vraiment des effets dommageables. Donc nous, vraiment, on encourage les populations à s'identifier, non seulement pour elles-mêmes, et surtout dans le contexte actuel, pour faciliter la tâche à ceux qui ont en charge notre sécurité.
L'identification a pris fin le 16 mai dernier. On ne sait pas encore si elle sera prolongée. Certains abonnés des services de téléphonie mobile ont commencé à constater des perturbations auprès de leur opérateur de téléphonie, comme par exemple dans les transferts d'argent ou la désactivation de leur carte SIM. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche va dérouler jeudi soir le tapis rouge pour le président kényan William Ruto avec un somptueux dîner d'État, mais aussi la signature de quelques accords. Ce sera la première visite d'État d'un dirigeant africain à la Maison-Blanche depuis 2008, quand le président américain George Bush avait accueilli son homologue ghanéen John Kufuor. Pour cette visite de William Ruto, les objectifs de Nairobi sont aussi de tirer parti des financements et de l'influence de Washington, après que le Kenya a proposé d'envoyer une force de maintien de la paix en Haïti. Reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Anita Powell. Le récit est de Claire Morin-Jibou.
Il y a trois raisons pour lesquelles la Maison-Blanche a choisi d'inviter le président du Kenya après 16 ans sans aucune visite d'État d'un dirigeant africain. Il s'agit notamment des convictions démocratiques communes des deux gouvernements et de leur approche similaire en ce qui concerne l'exploitation du secteur privé. Mais la principale raison, a déclaré à la VOA la nouvelle responsable de la politique africaine de l'administration Biden, est la récente décision du Kenya de s'affirmer au niveau mondial en proposant d'envoyer 1000 agents de sécurité en Haïti. Frances Brown est la directrice principale des affaires africaines au Conseil national de sécurité. Elle s'est entretenue avec VOA cette semaine pour sa première interview avec les médias depuis qu'elle a pris ses fonctions au début du mois.
Nous avons choisi le Kenya pour plusieurs raisons. La première est que le partenariat entre le Kenya et les États-Unis est passé d'un niveau régional à un niveau mondial. Nous avons été très satisfaits de la manière dont les Kenyans ont joué un rôle de premier plan au-delà de leur région.
Pour beaucoup d'analystes, une visite d'État à la Maison-Blanche n'est jamais anodine. Cameron Hudson est chercheur principal au sein du programme Afrique du Center for Strategic and International Studies.
C'est le plus grand honneur diplomatique que notre pays puisse accorder. C'est typiquement un indicateur d'une relation bilatérale étroite et très importante. Ainsi, élever le Kenya au niveau, disons, du Japon, qui a été le pays le plus récent à recevoir une visite d'État, je pense que c'est symbolique et important pour toutes les raisons que je viens de décrire, à savoir que le Kenya est à un niveau où nous lui accorderions les mêmes privilège qu'à l'un de nos partenaires de sécurité les plus anciens et les plus fidèles.
Madame Brown a indiqué que l'administration entendait profiter de cette visite pour conclure des accords dans des domaines tels que la technologie, la gestion du climat, l'allègement de la dette et la santé. Le président kényan William Ruto, lors de sa première étape à Atlanta, a déclaré qu'il donnerait la priorité à la nécessité d'une aide américaine pour restructurer les dettes des pays africains, dont un grand nombre envers la Chine, le plus grand créancier du monde. Mais les défenseurs des droits de l'homme à Nairobi ont déclaré à la VOA qu'ils espéraient que le leadership américain soulèverait également des préoccupations concernant les abus commis par la police kényane qui prend la tête de la mission en Haïti, les craintes concernant la législation proposée qui, selon eux, menace les minorités sexuelles et le déclin de la liberté des médias. William Ruto et Joe Biden se rencontreront à Washington jeudi avant l'organisation d'un grand dîner d'État pour clôturer cette visite historique.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Toujours ici aux États-Unis, les électrices représentent plus de la moitié de l'électorat américain, soit quelque 7 millions de plus que les hommes, selon le Centre pour les femmes américaines et la politique. Nathalie Barge relate un compte-rendu de Scott Stern sur les stratégies électorales des candidats à la présidentielle, Joe Biden et Donald Trump, pour gagner la confiance de l'électorat féminin.
Parmi des questions concernant les lois sur l'avortement et les droits reproductifs, les Américaines se soucient de questions plus larges, notamment l'économie et la criminalité, entre autres sujets de campagne. Rebecca Jensen, électrice du Minnesota, estime que le président Joe Biden a pris de bonnes décisions.
Je pense que les aspects environnementaux, l'économie et les soins de santé sont très importants. Je suis infirmière et je vois donc encore fréquemment le COVID au travail. Les gens n'arrêtent pas de dire que nous sommes post-pandémiques, mais ce n'est vraiment pas le cas. Nous sommes toujours dedans. Je pense qu'avoir quelqu'un qui croit en la science à la Maison-Blanche est une bonne chose.
Quant à Julie Bembe, qui vote au Nevada, elle souhaite un second mandat pour Donald Trump.
Il était bon pour l'économie. Il n'y avait pas de guerre. Il y avait l'harmonie, la paix et du travail. Les prix de l'essence étaient normaux. Je veux dire que c'est un homme extraordinaire. Il aime son pays. C'est une bonne personne. Il a élevé une bonne famille. Et nous allons le retrouver.
Joe Biden cible les électrices à travers une initiative de la Maison-Blanche concernant la recherche sur la santé des femmes.
Pensez à toutes les percées que nous avons réalisées en médecine dans tous les domaines, mais les femmes n'ont pas été au centre de nos préoccupations. La recherche a mis beaucoup trop de temps à vous atteindre.
Pour la fête des mères, la campagne Biden avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux attaquant l'ancienne politique de Trump de séparation des familles d'immigrés. Lors d'une réunion de femmes chrétiennes, Trump a déclaré qu'il apporterait la paix en Europe.
Avant même d'arriver au bureau ovale, et après avoir remporté la présidence, j'aurai réglé l'horrible guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Le Centre pour les femmes américaines et la politique indique que les femmes sont toujours plus nombreuses à voter que les hommes au présidentiel depuis l'élection de Ronald Reagan en 1980. Pour le dernier scrutin de 2020, les données du centre de recherche Pew indiquent que Joe Biden a remporté le vote des femmes de 11 points de pourcentage sur Donald Trump.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.